j'appelle simplement et que je dirais si on a déjà étudié ce que je vais dire.
Si ça. Bon, oui. Alors, vous prenez le texte au début de la paracha de Noir. Oui, je crois que ça me revient maintenant. Vous arrivez à m'entendre au fond, là-bas? Vous arrivez à m'entendre? Approchez-vous, mais mettez-vous par là, parce que j'arrive pas à parler fort. Peut-être dans un quart d'heure. Oui, il me semble, ça me revient en mémoire, nous avons eu deux cours déjà sur ce sujet. Enfin, je vais essayer de vous résumer brièvement le thème principal que je crois nous avons touché. Voilà, la question qui s'est posée à nous était la suivante. Il y a un recommencement de l'histoire de l'humanité à partir de Noé, après le déluge, et la famille de Noé récapitule toutes les tendances humaines qui se sont faites jour dans la période précédente des 10 générations, qui ont été annulées par le déluge, et le principe que nous avons étudié à ce sujet, que vous retrouverez dans notre sujet, disons, et qui est important, c'est que tout ce que Dieu a créé valait la peine d'être créé. Et par conséquent, jusqu'au bout, il y a eu, on avait étudié le thème des sursis, mais indépendamment des sursis dans l'histoire, il y a une sorte de protection du Créateur en tant que Créateur sur la création qu'il a faite, et ce serait invraisemblable autrement. C'est-à-dire, Dieu n'a pas mis en jeu dans l'histoire du monde quelque chose, c'est pas quelque chose, disons un être du monde, dans l'éventualité d'un échec. Au contraire, il l'a mis dans le jeu du monde, de l'histoire du monde, dans l'éventualité d'une réussite. Par conséquent, quels que soient les échecs, et les échecs sont graves, la Torah est très, elle nous oblige à une lecture très lucide, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal, et quand vous serez familier au texte de la Torah, du David en général, vous serez aussi familier avec des termes très durs dont la Torah se sert, pour désigner ce qui a échoué, les termes d'impureté, de, comment dire ça en français, de indépendamment du terme du mal, mais c'est plein de dimensions, de définitions, de niveaux, comment traduire les clipots, les scories de déchets, de tout ce qui a devenu d'inutile et qui doit être rejeté, et il y a des termes, des catégories très dures. Mais le principe que je viens d'évoquer, c'est qu'a priori, il y a un souhait du Créateur que ce qu'il a mis en jeu dans l'histoire du monde méritait d'être créé. « Vayar Elohim Kitov », c'est un verset important du premier chapitre, et Dieu vit que c'était bon, c'est le jugement du Créateur, il dépasse infiniment nos jugements relatifs, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire, ça c'est relatif jusqu'au moment où on arrive à un degré de connaissance de l'absolu, on sait ce que c'est que le bien aux yeux du Créateur, le bon aux yeux du Créateur, et par conséquent ça nous explique pourquoi il y a une telle protection sur ce qui a été créé, dans l'espoir toujours renouvelé que ça puisse réussir, si c'est remis en jeu dans la perspective d'une réussite. Alors on va attacher à cela le thème des sursis qu'on a étudié dans les sept sourcils de la descendance de Caïn, mais surtout dans ce qui nous est révélé là, ce qui nous est dévoilé là, pourquoi il n'y a pas un recommencement absolu. Si c'est Noir qui a mérité d'être sauvé, nous avons beaucoup étudié, pas suffisamment, mais suffisamment quand même, que Noir a été sauvé par grâce, parce qu'il avait un potentiel de réussite qui va se dévoiler, surtout à partir d'Abraham. Pourquoi c'est pas Noir seul? Et pourquoi avec lui, il y a la famille de Noir? Et donc la mort des trois lignées humaines, Shem, Ham, Yafet, cette récapitulation de tout ce qui a eu lieu, en récapitulé, si j'ose dire, en laboratoire, l'arche de Noé, c'était finalement une sorte de Mahavada. Et je crois que, voilà, ça commence à venir, je crois que cela mérite d'être étudié, mais retenez au moins le principe, c'est que je vous cite une Mishnah qui est assez connue, Kolma Shevara Akadosh Baruchu Veolamo, Bichbodo Verao. Tout ce que Dieu a créé dans son monde, c'est pour sa gloire qu'il l'a créé. À travers le temps, la vie fonctionne et le fonctionnement de la vie mène à des défauts. L'idée de réussir, et ça nous explique pourquoi c'est la famille de Noir tout entière qui récapitule encore une fois toutes les tendances de manière d'être de ce qui s'était développé dans les 10 générations de la civilisation précédente dont l'échec a abouti au début. Vous vous rappelez qu'on avait étudié que c'est un déluge par l'eau qui efface les formes que l'être avait pris, mais qui n'annule pas l'identité de cet être. Si ça avait été un déluge par le feu, ça voulait dire que l'identité humaine aurait été annulée, son etsem, son essence. Mais là, ce n'est pas le cas, l'essence humaine est préservée, c'est la forme qu'elle a prise qui est noyée par l'eau. Est-ce que c'est clair? Le mot qui est employé par le texte, vous rappelez, c'est un mot important, emché, j'effacerai, pas je détruirai, mais j'effacerai. Il y a beaucoup de grands maîtres ont assigné à ce sujet, surtout le Maharal, qui nous indique à prendre garde à ce fait, c'est le jugement par l'eau, et non pas par le feu. Donc, et alors il en résulte donc que ce recommencement de l'histoire à partir de Noir est un recommencement à l'échelle universelle. Bien. C'est l'universel humain qui est présent dans cette famille qui recommence l'histoire de l'humanité. Et là, la question qui s'est posée à nous, c'est que, à travers cet universel humain, une histoire de birour, de sélection d'identité, va commencer par apparaître, et elle va surtout, elle va émerger à partir du temps des patriarches. Ça sera l'année prochaine. Il faudrait beaucoup de temps. C'est la partie peut-être la plus importante, puisqu'on a étudié jusqu'à présent, c'est des préfaces, de préfaces, d'introduction, d'un avant-propos, vous avez compris. Et cette sélection d'identité à partir d'Abraham qui mène à Jacob, qui reçoit le nom d'Israël, et c'est là que l'histoire d'Israël commence. Et il y a donc une particularité de l'identité que la Torah appelle hébreu, hébraïque, à partir d'Abraham, par rapport à l'universel humain qui continue à être protégé, préservé, et l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'universel humain procédant de la famille de Noé. Et donc la question qui se pose à nous, c'est que finalement, la Torah, qui est la révélation de la volonté du Créateur en tant que idéal, loi de l'identité humaine authentique, ne va être révélée qu'à Israël. Et si la définition du tzaddik, ce qu'on traduit en français par juste, c'est celui dont l'identité correspond à cette norme des valeurs qu'est la Torah révélée, parce que cela nous l'étudierons d'autre part, l'intelligence humaine ne peut pas arriver par elle-même à la connaissance de cette loi de la morale absolue, elle ne peut arriver par elle-même qu'à la connaissance de ce que serait le statut de telle ou telle valeur morale en particulier. Mais la Torah, c'est la révélation de la loi de l'unité des valeurs, et nous verrons pourquoi l'intelligence, la capacité de connaissance humaine que l'on reçoit en tant que créature, Ronen la Adam Da'at, le créateur gratifie la créature qu'il appelle l'homme, que la Torah appelle l'homme, de la capacité de connaissance par lui-même, mais elle ne peut arriver qu'à élaborer la connaissance de telle ou telle valeur en particulier. C'est ce qui nous expliquera un jour d'ailleurs la différence entre les traditions de toutes les traditions et la tradition de la Torah, qui est celle de l'unité des valeurs. Pour accéder à la connaissance de la loi de l'unité des valeurs, il faut une révélation. C'est au-delà des capacités de la connaissance humaine. Je dirais ça tout de suite un peu autrement. Ce n'est que lorsque l'homme arrive aux limites de sa capacité de connaissance propre par lui-même, midarto beno le benatmo, que la Torah commence à parler. La Torah n'a pas pour objet de révéler ce que l'homme peut connaître par lui-même. Il y a des choses importantes dans la perplexité de l'homme à la recherche de sa propre connaissance. La Torah, beremez, birmiza, en passant par allusion, confirme ce qu'il faut savoir comme étant, parmi toutes les hypothèses de connaissance, celle qui est la vraie. Mais ça, c'est la connaissance de l'homme pour lui-même, par lui-même. Et c'est pourquoi le texte de la Torah, un texte révélé, parle à chacun au niveau où il se trouve. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est-à-dire que, vous savez que Joseph a dû vous le dire, et vos maîtres ont dû vous le dire souvent, lorsque nous étudions comme ça dans une classe c'est pas la méthode d'étude traditionnelle. La méthode d'étude traditionnelle, c'est un maître et un élève à la rigueur d'eux. Okay. Parce que chacun est à un niveau du problème de la connaissance qui est le sien. Et ce qui est dit à l'un peut ne pas être ce qu'il faut dire à l'autre, qui est soit plus bas, soit plus haut. Est-ce que c'est clair, Gilles ? Okay. Bon, vous connaissez le problème très important, l'équation personnelle de chacun, la grande difficulté de l'enseignement du judaïsme dans une civilisation soi-disant objective, des médias qui donnent la même chose à tout le monde, c'est que la Torah n'est pas faite pour ça, elle s'adresse à chacun en particulier. Et c'était une parenthèse mais importante, okay, mais c'est pour relier au principe précédent, qui est que chacun, au niveau de capacité de connaissance, entend de la parole d'un verset, de la parole d'un Rashi, de la parole d'une Mishnah, de la parole d'une Gemara, ce qui lui correspond à travers les mêmes mots. Voilà. Je reviens à mon sujet. Pourquoi je vous ai parlé de ça, d'ailleurs, de ce principe pédagogique ? Qu'est-ce qu'il y avait juste avant ? Ça me donne le temps de dire. Quel est ce silence profond ? De quoi je parlais ? Ah oui. Que la Torah de l'unité des valeurs doit être révélée. Et cette révélation, c'est ce que j'ai ajouté, parle à chacun au niveau de chacun. Il y a un midrash à propos de la révélation des Sinaï, qui est très très lié au verset, qui nous dit que le peuple était étagé sur la montagne. C'est-à-dire chacun était près de la source de la révélation en haut, à son niveau à lui. Moïse était le plus haut, et puis le dernier des Hébreux était très haut, mais en bas. C'est clair. Chacun a son niveau. Et donc voilà donc la question qui va se poser. Si il y a une lignée humaine privilégiée, et nous verrons que ce privilège, nous l'avons déjà vu, n'est pas gratuit, n'est pas arbitraire, même s'il apparaît comme gratuit, c'est-à-dire une grâce, mais il n'est pas arbitraire. Il y a des raisons pour cela. Et c'est pourquoi il y a toute cette préface, depuis le début de l'histoire humaine jusqu'à la sortie d'Égypte et le Har Sinaï. Si une lignée humaine est privilégiée de l'accès à la Torah objectivement vraie, absolument vraie, il y aurait donc a priori une injustice par rapport à l'universel humain. Est-il possible qu'il y ait un tzaddik chez les nations ? Agoy gam tzaddik. Est-ce que ça peut exister que ça, goy gam tzaddik ? Alors il y a donc. Et le. C'est pourquoi nous avons étudié le fait que la Torah nous révèle, à propos de l'histoire de Noir, bon, bien sûr, il faut l'étudier pour le voir, qu'il y a deux niveaux de la définition du tzaddik. Il y a un niveau de la définition du tzaddik à l'échelle universelle, c'est-à-dire, même et dans le cas où il s'agit d'une conscience qui n'a pas eu accès à la Torah, qui ne peut pas avoir accès à la Torah, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas né en Israël. Et il s'agit d'une attitude de la volonté qui préfère systématiquement, je dis bien systématiquement, rubo que culo, en général, les olam, et les olam, ça veut dire dans tous les cas, mais ça veut dire en général, faire le bien que le bien comme elle le connaît, le mal comme elle le connaît, au bénéfice de deux principes, la bonne foi et la bonne volonté. Ça nous avons étudié. C'est-à-dire, on peut être tzaddik même si on n'est pas relié à la Torah. C'est le tzaddik des Bnei Noir. Comment se définit cette règle ? C'est, encore une fois, une attitude de la volonté qui, je dis bien, le mot que j'emploie intentionnellement, qui préfère, parce que vouloir, le commencement de vouloir, c'est vouloir. C'est le mystère du commencement de la volonté. Une volonté qui a des raisons, qui a des causes, c'est pas encore l'ishma. Une volonté, vraiment, c'est une volonté qui commence par elle-même. Et c'est là que la conscience dit qui elle est, en choisissant comment vouloir. Et cette option de la volonté, si elle est de préférer le bien plutôt que le mal comme elle le connaît, ça s'appelle tzaddik. Si elle est de préférer le mal plutôt que le bien comme elle les connaît, ça s'appelle rachat. C'est des limites. La majorité des hommes sont benoni entre les deux, mais avec ces deux polarités, ou tzaddik ou rachat, à l'échelle universelle. Est-ce que c'est bien clair ? Bon.
Chez eux, le bien, c'était le mal.
Oui, c'est que la Mishnah elle-même dit, mais il y a deux minutes. Si je me trompe, Archer of Care. Je ne sais pas si je vous ai cité une fois une blague très chassidique. Non, c'est des chassidiques, on ne demande que des blagues qui ne soient que des blagues. Comment ils définissent ce dom? C'est les lettres de Seder, Mishmarat, Daikanut. C'est ça ce dom. Je n'ai pas compris, ça vaut mieux. Je reviens au problème. Mais du dedans, comme disait le rabbin souvent, les torsés, du dedans de cette humanité en général qui est en gestation de tzadikim à l'échelle universelle, apparaît une lignée pour qui la visée du bien, c'est le bien absolu. C'est-à-dire, d'après la loi absolue des valeurs, qu'est-ce qui est absolument vraiment le bien, qu'est-ce qui est absolument vraiment le mal aux yeux du Créateur. C'est ça la différence de nature qu'il y a en toutes les traditions, nez noir y compris. Et c'est les meilleurs, et la Torah. Alors vous allez me dire, mais c'est illusoire, délirant, qu'est-ce que c'est cette prétention? Eh bien, cette prétention n'aurait pas de base s'il n'y avait pas eu l'événement historique de la révélation. Événement historique de la révélation qui se perpétue dans la mémoire d'Israël, d'Israël seul, mais qui a été finalement confirmé indirectement par un consensus des nations en général, quelle que soit l'ingratitude qui s'est mêlée là-dedans à travers 4000 ans, que s'il y a une révélation, c'est bien celle d'Israël, il n'y en a pas d'autre. C'est un sujet pour lui-même, mais vous comprenez à quel point il est important d'y réfléchir. C'est clair. Et alors, et c'est ça qui a déclenché toutes cette attitude ambivalente de l'humanité vis-à-vis d'Israël depuis toujours et surtout maintenant, que cela ressort de la clandestinité, une fascination absolue et une haine corollaire. Il n'y a que les psychologues qui peuvent vous expliquer ça profondément, même quand on est le chrétien. Et on a, je crois, un peu étudié ça à propos de la réaction de Caïn par rapport à Abel. Quand il s'avère que c'est Abel qui a raison et que Caïn est disqualifié, une réaction de frustration et de mélancolie mêlée qui fait le fond de l'antisémitisme contemporain, si on l'analyse suffisamment. Top. Et alors, va se préparer, à partir d'Abraham qui émerge d'une des lignées de Noir, dans une mutation d'identité que je vais commencer à vous décrire, va se préparer une manière d'être homme que la Torah nommera Israël et à qui la Torah s'adresse. Et finalement, tant que l'identité Israël n'est pas apparue, tout ce que le récit nous dit était préface a posteriori de l'émergence de l'identité Israël. Il y a des implications importantes dans l'étude du Talmud, je vous en donnerai une en passant. C'est le fait que la Torah va révéler un certain nombre de mitzvot que nous pratiquons en tant que mitzvot de la Torah et qui ont été révélés avant la révélation du Sinaï. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais étudierait pour elle-même. Et cependant, la Gemara établit qu'elle ne prenne force de loi en tant qu'obligation qu'à partir du Sinaï, qu'à partir du moment où Israël se constitue en société à la sortie d'Égypte, et cet Israël à qui la Torah doit s'adresser. Et par conséquent, bien que cela nous est raconté à propos de l'histoire du premier homme, ou de Noir, ou d'Abraham, ou d'Isaac, ou de Jacob, qui a tel mitzvah qui est déjà donné, parce que le premier homme, Abraham, Isaac et Jacob, sont déjà prêts, sur ce point de la Torah, en tant que mitzvot, de la recevoir, cette mitzvah, malgré tout, cette mitzvah ne prend force de loi que quand Israël existe comme Israël. Ça nous est enseigné centralement dans la Gemara de Khoulin, environ page 90, à propos du Yidden Hashem. C'est-à-dire que la Torah nous raconte dans l'histoire de Jacob pourquoi les enfants d'Israël mangeront kasher, ça commence par le Yidden Hashem, mais que ça prend vraiment force de loi qu'à partir du Sinaï. C'est important que ce soit cet exemple, parce que c'est Jacob qui est le premier homme qui reçoit le nom d'Israël. C'est peut-être la raison, vous allez voir dans les commentateurs, la raison pour laquelle la Gemara a choisi cet exemple d'une mitzvah avant le Sinaï pour dire qu'elle prend force de loi, elle prend force de loi ces mitzvot qu'à partir du Sinaï. Donc, alors je me propose, et vous me direz si on ne l'a pas déjà vu, de commencer à étudier maintenant Et ici, c'est bien clair, la différence du tzaddik au niveau noir, la différence du tzaddik au niveau Abraham, de commencer à étudier l'identité d'Abraham, un des thèmes de l'identité d'Abraham, et ensuite, le temps qu'il nous restera d'ici la fin d'année, j'en prendrai un dans l'identité d'Isaac et un dans l'identité de Jacob. Bien. Et alors, vous allez prendre le chapitre 12. Et ensuite, on reviendra en arrière, mais prenez le chapitre 12, je voudrais vous donner une référence qui est un peu la base de ce que je voudrais expliquer. Pardon, c'est le chapitre 14. Oui, c'est le chapitre 14. Je vais donner le verset. C'est le verset 12. Attendez que je prenne ma vie. Verset 13 du chapitre 14. Voilà. Il s'agit d'un épisode qu'on n'aura jamais le temps d'étudier, mais dans l'histoire d'Abraham, il y a, lorsqu'Abraham est sorti de Kasdim, sorti de son exil, commence à s'installer en Eretz Israël, il s'est séparé de son neveu, Lot, j'y reviendrai tout à l'heure, et on apprend qu'il y a une guerre à laquelle participe Lot, qui s'était séparé d'Abraham, et que Abraham intervient dans cette guerre pour sauver son neveu Lot qui s'était séparé de lui. Alors là, le verset va nommer Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham. Il est encore au premier stade de son identité, où il s'appelle Abraham. Je vous rappelle que j'écris au tableau, mais vous êtes familier déjà, Abraham, Aleph, Bet, Resh, Mem, Abraham, il y a un « et » en plus. Mais encore, lorsqu'il s'appelle Abraham, le texte l'appelle Abraham l'Hébreu. Vous l'avez au verset 13, du chapitre 14. Vaya Bohapali, Vayaged le Abraham à Ivri. C'est clair, retenez bien cette référence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Ivri? Indépendamment de ce que dit le Midrash, à ce sujet qui est important, il y a trois indications du Midrash, mais je vais le lire au niveau historique. Eh bien, dans une des lignées de Noir, la lignée de Shem, il y a un des ancêtres d'Abraham qui s'appelle Ever, Aïn Betresh, Ever. Et Ivri, ça veut dire descendant de Ever, d'abord, le chat. Ensuite, le Midrash intervient et explique des thèmes extrêmement importants. Peut-être on aura à y faire la vie. D'autre part, dans l'histoire de Joseph, vous avez l'expression Eretz Ivrim, la terre des Hébreux. Ça, vous l'avez, peut-être vous ne cherchez pas vous-même, sinon je vous donne la référence. Lorsque Joseph sortit de la fosse, vous rappelez l'histoire, pour expliquer les rêves du pharaon, ce nomme, dit qui il est, il dit « J'ai été volé de la terre des Hébreux, mais elle est à Ivrim. » Et le pharaon, je crois que c'est le pharaon à qui il parle, okay, c'est Potiphar, c'est le sœur de le sœur Bethanson, je ne sais plus. Au pharaon, oui. Et le pharaon, eh bien, il comprend que c'est la terre des Hébreux. Et c'était quoi la terre des Hébreux? Le pays que la Torah appelle à cette époque le pays de Canaan, qui est Eretz Israël. Et effectivement, lorsque Joseph a été vendu et il a été descendu en Égypte par les caravanes, il s'est trouvé dans le pays de Canaan et il dit au pharaon, du pays des Hébreux, j'ai été volé. Et ce que je mets en évidence, c'est que le pharaon ne réagit pas, c'est-à-dire au niveau de la culture de ce temps, on sait qu'est-ce que c'est que la culture des Hébreux, la terre des Hébreux. C'est clair? C'est le pays d'Israël. Par conséquent, c'est clair jusque-là? Par conséquent, ça signifie que si le texte nomme Abraham, alors qu'il s'appelle encore Abraham, Abraham l'Hébreu, alors qu'il était à Babel, en Mésopotamie, à Ur Kasdim, puisque je vais reprendre l'histoire d'Abraham de son départ d'Ur Kasdim, ça signifie que Abraham faisait partie d'une famille d'Hébreux exilés en Mésopotamie. Voilà, c'est une chose peu connue, la manière dont j'ai organisé un peu ces deux références. De sorte de mettre ça en évidence et essayer de vous expliquer, certains d'entre vous l'ont déjà entendu, soit à Mayanot, soit ailleurs, mais vous me direz si j'en ai parlé ici. Ah oui, eh bien, je le reprends quand même. C'est que il y a une légende, disons un cliché, qu'il faut corriger, c'est qu'habituellement, je pense que vous avez été habitué à cela aussi avant, on pense à Abraham comme s'il était un Mésopotamien, un membre du peuple, de la nation, de la civilisation de Kasdé, Kaldé, Babel, Mésopotamie, c'est à peu près la même chose, Et puis, qui, à la suite d'une vocation qui reste à élucider, deviendrait heureux. C'est magique. Est-ce que c'est clair? En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus important à comprendre historiquement qui se passe. C'est que la terre de Canaan, c'est l'héritage, dans l'héritage de Shem, c'est la terre de la descendance de Hever, Eretz Ha'Ivrim, la terre des Hébreux. Et où étaient les Hébreux? Eh bien, ils étaient en exil, dans la civilisation du temps. La civilisation du temps qui était celle de Mésopotamie, pour Kasdim. Et là, il y a une règle très importante, vous allez retrouver dans toute l'histoire d'Israël jusqu'à nous, c'est que, avec un gros plan dans le récit de la Bible en Égypte, c'est que lorsqu'il y a exil d'Israël, dispersion d'Israël, cela se passe dans la civilisation du temps, dans ce qui est la civilisation dominante en ce temps-là. Par exemple, aujourd'hui, nous sortons d'une période où la grande dispersion des Juifs était en Europe, elle est maintenant en Amérique. Je ne veux pas dire par là que c'est le pays le plus civilisé du monde. Enfin, c'est ce que croient les Juifs. Et alors, ils vont en Amérique. Et c'est important de savoir d'ailleurs quel est l'indice, qu'on pourrait appeler l'indice de degré de civilisation. D'après l'école sociologique française, c'est un indice très positif. C'est le nombre de livres qu'il y a dans une bibliothèque municipale. D'après les sociologues américains, c'est la quantité de papier qu'il y a dans les poubelles. Oui, à peu près ce que je veux dire. Non, c'est pas une blague. Veuillez surpris, certains disent la note de l'électricité. Et alors, en tout cas, on voit cela que les grandes migrations de la dispersion juive ont toujours suivi les lignes de la civilisation dominante. C'est pourquoi il y a eu un temps où la diaspora, c'était essentiellement la diaspora sporadite, parce que c'était le temps où la civilisation était la civilisation de l'islam. Et puis, immédiatement après, on voit qu'il y a un déplacement, les Juifs se déplacent. Alors les antisémites diraient là où il y a les banques, mais enfin disons, là où il y a la culture du temps. En termes bibliques, référez-vous au rêve de Joseph, là où le blé pousse. Et c'est pas... D'ailleurs, peut-être par hasard, que le grenier à blé du monde est en Amérique aujourd'hui. Au Canada aussi un peu, mais vous savez de quoi je parle. Donc. En tout cas, pour revenir à notre problème, c'est un thème très important que le Midrash et le Talmud indiquent, comme si c'était une chose très connue des étudiants de la Torah. Qu'à chaque temps de civilisation, je vais vous donner une référence même avant le déluge, il y a ce couple d'identité qui va beaucoup nous occuper dans les études maintenant. Israël d'un côté, les nations de l'autre, qui est une unité de lecture très polémique, très, très irritante pour la culture occidentale. Qu'est-ce que c'est que cette prétention à un tout petit peuple et une tribu du Moyen-Orient qui présente une Torah qui est basée sur une équation aussi spectaculaire, Israël, les nations. Et nous aurons à nous occuper de cela. Mais admettons que c'est déjà élucidé, et d'ailleurs un des Midrashim qui explique le mot de Ivri, Abraham d'un côté du monde, mais Ever Echad, et tout le reste de l'humanité, mais Ever Hacheni, de l'autre côté. Vous connaissez ce Midrash, non? Et il y a d'ailleurs un chant, aussi un chant chassid, un chant israélien, qu'on chante beaucoup. Le monde est un pont dangereux. Et des deux côtés du pont, il y a Abraham d'un côté, c'est moi qui ajoute. Abraham d'un côté et le reste de l'humanité. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur d'Abraham. Je reviens en tout cas au problème. C'est que à chaque temps de civilisation, cette équation a joué. Elle a joué de façon clandestine, non dévoilée, approximative, non réussie. Et il y a l'humanité du temps et une société qui est censée jouer le rôle de Mamlechet Kohanim, la société de prêtres, que finalement sera, au moment de la révélation, la désignation de la vocation d'Israël lorsqu'Israël aura émergé dans l'histoire de l'humanité. Ça nous est indiqué à propos, si vous voulez, je vous donne le verset, à propos du déluge, Beshagam ou Bassar, on a étudié cela. Et la Gemara dit, allusion à un Moïse qu'il y avait en ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner le verset. Ça veut dire qu'en ce temps-là, il y avait donc une société de type Israël avant la lettre, et donc s'il y avait une société de type Israël avant la lettre, il y avait un Moïse avant la lettre, de type Moïse avant la lettre, et il y a eu échec. Alors la Torah ne nous parle pas en détail de ce qui s'est passé en ce temps-là, mais elle va nous parler en détail de ce qui va se passer dès qu'on est au stade où ça va réussir, où un Israël vraiment va émerger du sein de l'humanité vraiment, à partir d'un Abraham vraiment, avec un Moïse vraiment. Et c'est celui-là qui est celui de la Torah. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là, mais je vais vous donner le verset. Alors, c'est donc... Voilà, c'est dans le chapitre 6, si je vais le prendre. Verset 3. Et la référence que je vais vous lire se trouve dans la Gemara de Choulin, page 139b. Alors voilà ce que nous dit le verset. Vayomer Hashem, et Dieu dit, Lo yadon ruchi ba'adam, mon esprit ne dominera plus sur l'homme, ne jugera plus l'homme, l'érolam, à jamais, Beshagam hu basar, bien qu'il soit cher, de chair et de sang. Et là, ce mot Beshagam est un mot qui existe une seule fois dans tout le Mikra. Beshagam, bien que. Et Ve'ayu Yamav Ve'Isrim Shana, et ses jours seront de 120 ans. Ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, l'homme ne vivra que 120 ans. C'est une erreur de croire ça, puisque nous voyons dans les lignées suivantes, les hommes vivent plus que 120 ans. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y aura 120 ans de sursis jusqu'au déluge. Que les jours de l'humanité sont comptés et qu'il n'y aura que 120 ans. 120 ans après, il y a eu le déluge. À propos de ce mot Beshagam, la Gemara dit, allusion à Moïse dans la Torah, où trouvons-nous cela? Dans ce verset, Beshagam a la même valeur numérique que Moshe, ça fait 345. Alors si on ne comprend pas le thème qu'il y a dans cette indication de la Gemara, on se demande à quoi joue le Talmud, mais c'est quelque chose de très important. Okay? C'est-à-dire, en ce temps-là, il y avait une société qui était censée jouer le rôle de la société d'Israël, comme j'ai dit avant la lettre, et donc, allusion à un Moïse de cette société-là. Est-ce que c'est suffisamment clair, okay? Bon, c'est le rôle que jouaient les Hébreux dans la situation de Kasdim. Ils ont tous disparu, une Shoah considérable. Une famille de rescapés, la famille d'Abraham. De la même manière qu'à la sortie d'Égypte, une Shoah considérable. On ne se rend pas compte, nous vivons la Shoah contemporaine. On ne se rend pas compte des dimensions de la Shoah de la sortie d'Égypte. Vous savez, quand notre mémoire traditionnelle est très ancienne, et quand cette mémoire nous dit un cinquième sont sortis d'Égypte, et les quatre cinquièmes, Shoah. Et le Midrash surenchérit, je viens vous dire, il y a un cinquième, un cinquantième, un cinq centième. Tu connais ce mot. Et de la même manière qu'à la sortie d'Or Kasdim, une famille est sortie. Et elle est sortie littéralement de Our Kasdim, et le Midrash dit, ça veut dire la fournaise de Kasdim. Our Kasdim. Et l'analogie est directe. Ça veut dire que la famille d'Abraham est sortie des faux crématoires d'Our Kasdim. C'est les Nitzolei HaShoah de ce temps-là. Donc. Et alors, je pourrais vous donner d'autres références, mais ça me prendrait trop de temps. De telle sorte de comprendre que tout se passe comme si les Hébreux, ils étaient dans la civilisation du temps, qui se sont tous perdus, et qu'il y a un rescapé à Abraham à Ivry. Voilà ce qu'on apprend de ce verset. Donc, première indication qui, je crois, est très importante. Alors, il ne s'agit pas d'un Mésopotamien, ou comme diraient les chrétiens, qui magiquement a entendu l'appel, je cite des pasteurs protestants, je proteste, et est devenu hébreu. C'est de la magie chrétienne. Et bon, on ne peut pas leur demander d'avoir la mémoire des Hébreux. C'est évident. Alors, je reviens en tout cas à notre problème. Et il y a deux niveaux d'identité dans l'histoire d'Abraham. Le niveau où il est Abraham, son identité araméenne. Et le niveau où, dégagé de cette identité araméenne, il va retrouver l'identité hébraïque enfouie, clandestine, occultée derrière cette identité d'exil des Hébreux en exil de ce temps-là, qui était l'identité araméenne, redevenir Abraham l'Hébreu, alors il peut engendrer Isaac. Quand il est encore Abraham l'Araméen, il engendre Ishmaël. Et vous voyez ce cliché d'Abraham aurait eu deux fils, l'un Ishmaël et l'autre Yitzhak. C'est faux. Abraham a eu un fils, Isaac. Quand il était Abraham, il a eu Ishmaël. Et encore d'Agar, et pas de Sarah, de la famille d'Abraham. Agar, l'Égyptienne. Et le Midrash dit qu'elle était la fille du Pharaon. Alors pour être le Midrash nous dit ça. Ça veut dire, ça, nous le verrons à ce moment-là. Elle est la manière d'être d'une des, pas colonies, mais comment dire, d'une des, si on m'échappe en français, une shlucha, de la civilisation babylonienne, là. Je ne sais pas. Pas une expédition. Une branche, si vous voulez. Et un peu comme l'Amérique est une shlucha de la civilisation européenne. De la civilisation de Babel, et que Abraham, avec cette manière d'être homme, a engendré Ishmaël. Si on faisait un petit court-circuit dans l'histoire contemporaine, peut-être pas pour rien que tous les problèmes qu'on a avec Ishmaël en général, ça passe par l'Égypte, hein, une fois de plus. C'était encore à la télévision. En tout cas, pour revenir à notre problème, c'est que ce que je voudrais caractériser, c'est qu'il y a eu un temps de cette identité hébraïque en exil où elle était tellement occultée qu'elle est devenue ce que l'on appelle araméenne. Et là, il y a énormément de références dans le Midrash, dans la Gemara sous-jacente, mais ce n'est pas la peine de charger maintenant de temps de détails d'érudition. Retenez l'idée. Et je crois que ce qui est important de comprendre, peut-être je vous l'avais dit en ce temps-là, c'est peut-être être un peu brusque. Mais c'est important de le comprendre à la limite, quitte à nuancer par la suite. Tout se passe comme si c'est exactement la différence aujourd'hui entre l'identité juive de l'exil et l'identité israélienne. C'est le même peuple, mais dans deux indices d'identité radicalement différents. Greffé dans la civilisation chaldéenne, l'identité hébraïque devient araméenne. Les kabbalistes appellent ça la clipa de Aram, l'écorce d'identité, elle n'est pas n'importe laquelle. Aram, c'est très près de l'hébreu, d'un côté, mais c'est enfoui chez les goïms de l'autre. C'est ça Aram. Et c'est de cela qu'Abraham se dégage pour redevenir Abraham l'hébreu, vraiment. Est-ce que ça peut être C'est pas trop polémique, ok? Je veux pas dire que ce sont des processus qui, pour nous, dans la société que nous vivons, prennent du temps. Je ne veux pas dire que déjà, subitement, tous les juifs de l'exil vont rester comme Laban l'araméen, et Dieu sait qu'on a des problèmes avec Laban, Jacob Laban, hein, et qu'il n'y a que les Israéliens qui sont du point de vue Jacob. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ce thème d'identité-là que je voudrais indiquer. Avec quoi, comme, se référant à notre question, au sujet qu'on est en train de dire, avec quoi comme caractère important? C'est le fait que cette identité araméenne était devenue, à la limite, une parmi les nations. Elle ne fait pas partie des nations. Quand vous étudierez le thème des 70 nations et d'Israël, vous verrez qu'entre les 70 nations et Israël, il y a la manière d'être homme araméenne qui fait le trait du monde. Okay? Mais, je ne dis pas, non, pas le trait du monde, qui est entre les deux. Mais, ça ne fait pas partie des Shivim Lachon et ce n'est pas le Lachon Hakodesh. Au niveau de la langue. C'est la langue de traduction. Vous comprenez l'idée. Et alors, ça veut dire que...
Tout ça explique encore comment Abraham sort.
Comment il s'est dégagé. Oui. Ça qu'on va étudier. Bien sûr, on est dans la préparation. Ce que je veux dire tout de suite à propos de ta question, c'est... Ça nous fait comprendre à quel point ça a été difficile. Ça a été très difficile, tout vraiment. De passer d'Abraham à Abraham, la Torah nous raconte une difficulté extrême. En fin de compte, quand c'est arrivé, il y a ce verset extraordinaire qu'on étudiera, « Ve'emin b'Hashem ». Alors il eut foi en Hashem. C'est là qu'il va s'appeler Abraham. Dieu lui fait entendre des promesses, et Abraham n'arrive pas à entendre. Jusqu'à ce qu'il arrive à entendre. C'est dans ce processus qui passe d'Abraham à Abraham. Tant qu'il est Abraham, il n'arrive pas à entendre. Comment moi ? Et dès qu'il arrive à entendre, c'est qu'il est Abraham. Et lorsque la première fois la Torah va dire, alors il a eu la Emouna en Hachem, c'est quand il a fini par entendre. Alors, alors c'est exactement. C'est très important de voir ça. On peut toujours s'étonner, mais comment Dieu parle et Abraham n'entend pas. Je ne vais pas dire il doutait pas. Il reste en perplexité, le mot est plus exact. Comment c'est possible? C'est ça que je vais comprendre. Tant qu'il est Abraham, c'est difficile. Et alors cette parole va le décaper de son écorce arame. Alors il se dévoile comme Abraham. Essayez de comprendre à quel point nous vivons cela existentiellement. Je n'ai même pas la peine de mettre les points sur les i. Ils sont déjà là. Par contre, qu'est-ce que tu veux dire? J'entends pas.
Pardon? Mais il y a la réponse à ton premier corps, ce qu'il a. Encore avant de l'appel, ça
a oui. Et ça veut dire qu'il y a un mérite exceptionnel pour Abraham de devenir Abraham. En termes contemporains, mais c'est un terme de la Gemara. Ça s'appelle Aliyah. C'est un mérite exceptionnel. Il est monté de Our Kasdim à Jérusalem et il faut le faire. Et jusqu'à ce qu'il arrive à se décanter, à devenir vraiment relevatique et pas rester au stade de Olé Hadash, et bien il faut passer par vous savez, par la sortie. Arrête, miskenot les parents. Alors je reviens. Non, tu sais, je voulais désigner plus sérieux, et malheureusement plus sérieux, c'est tous ces affres de perplexité du juif en train de revenir hébreu. Vous voyez à quoi je veux dire. C'est Abraham devenant Abraham. Alors, où est le caractère important de cette désignation d'identité à deux niveaux? Et il me semble, si c'est le cas, c'est bien, sinon je vous donnerai la référence, que tu as une masse de brochot ici, je pourrais donner une référence. La Gemara dit Abraham, ça doit se comprendre Av le Aram, le principe d'identité de Aram. Abraham, Av Hamon Goïm. Alors je vais donner la référence, vous l'utilisez pour lui-même, c'est la fin du chapitre 1 de brochot. La page. Ah, d'accord, ça doit être là. Voilà, c'est la page 13A dans Brachot. Alors, je vous lis trois lignes. Abraham, ou Abraham, sur un verset de Dibrayami. Batrila Naasa Avle Aram, au début, il a été le père de Aram, ou le Basof Naasa Avle Chola Olam Kulo, et à la fin, il est devenu le père du monde entier. Et le verset est qui a Hamon Goïm Netatir. C'est la même chose pour Sarai, qui devient Sarah. Alors Sarai, ou Sarah Batrila, Naasid Sarai, Lehumata, ou le Basov, Naasid Sarah, Lechola Olamkum. D'abord, elle était la princesse de sa propre nation, Sarai Lehumata, c'est-à-dire lorsqu'Abraham l'appelait, il l'appelait ma princesse, Sarai, comme Sarati. Okay? Et ensuite, Sarah, l'Echola Olam Kulu. Alors, c'est ça que je voudrais exploiter, mais vous verrez la référence par vous-même. C'est que nous avons ici une interdiction d'appeler Abraham, de l'appeler de nouveau Abraham. Sauf pour rappeler qu'il était d'abord Abraham et ensuite Abraham. Vous connaissez la parole, pas souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un lota assez. Il y a une interdiction de la Torah d'après Abraham, de l'appeler Abraham. Alors cette interdiction n'existe pas pour Sarah et Sarah. Elle n'existe pas pour Abraham. Abraham a le droit de continuer. Bon, ça vous étudiez dans la Gemara. Je veux simplement donner la signification. Et alors l'objection de la Gemara, c'est nous avons quand même un verset, on le dit à la Tfila tous les matins. Quel est le verset? Dans Baruch Shamar. Dit la suite, Matsata Levavo Neheman, qu'est-ce qu'il y a avant? Oui, même quand on fait la prière tous les matins, ça s'en va. Alors, excusez-moi. Véhotsetu, oto, meurkazim, vesam tachemo Abraham. Dieu a choisi Abraham, l'a fait sortir d'Urkazim et l'a nommé Abraham. Alors, dans ce verset, on cite de nouveau Abraham comme Abraham, mais pour rappeler qu'il s'appelle Abraham. Ça veut dire ceci. Vous avez compris la question, ok ? Ça veut dire ceci.